Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute.
Louis.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que cela fait d'être concentré pendant plusieurs heures sur l'intitulé d'un problème? Un peu comme en période d'examen. Rappelez-vous, les intitulés du bac de philo. Le bonheur est-il affaire de raison? Ou vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Vous avez 4 heures. 4 heures où toutes vos méninges sont tendues vers la résolution d'un seul problème. D'abord, c'est le brouillon, le plan, sur les feuilles colorées. Et enfin, les pages doubles qu'on gratte avec plus ou moins d'empressement, mais généralement, on n'a pas vraiment le temps de se tourner les pouces. Maintenant, réfléchissez à la dernière fois que vous avez eu une sensation de concentration similaire au travail. Quand était la dernière fois que vous vous êtes concentré, sans discontinuer, pendant plusieurs heures? Il est probable que cela ne vous arrive jamais, tout simplement. On l'a vu dans l'épisode précédent, en moyenne, un employé de bureau passe seulement 11 minutes sur une tâche avant d'être interrompu. Or, au travail, on a quand même besoin de se concentrer.
Le but du jeu, c'est quand même de faire un plan d'appartement, donc avec des cotes, intégrer toutes les contraintes techniques, des arrivées d'eau, des évacuations de VMC et plein d'autres choses, en fait. Donc, en fait, là, il faut être ultra précis et ultra pointu sur le travail qui doit être rendu. Et après, quand on propose des projets en 3D et un nouvel aménagement, à la fois, le cerveau, il est obligé et de vérifier que techniquement ça passe, de vérifier que je reste toujours en ligne avec les objectifs du client, d'imaginer que ça va rentrer aussi dans le budget, ce qui nécessite d'être pleinement concentré à la tâche.
Karine est architecte d'intérieur indépendante, et pour ne pas faire d'erreur dans son travail, elle doit être très concentrée, et ce n'est pas toujours compatible avec ses conditions de travail.
Quand je travaillais en open space, on pouvait être jusqu'à 20 en open space, en fait. Ben, il y a le bruit ambiant, il y a les coups de fil, les conversations intercollègues et tous les gens qui peuvent rentrer dans le bureau, en fait. Donc, ça fait un certain nombre de choses qui gravitent autour de soi et qui bougent autour de soi et, en fait, qui viennent un peu perturber l'état de concentration, en fait. Donc ça c'était compliqué pour moi, en tout cas, parce que humainement parlant, quand un collègue est en train de discuter ou qu'ils éclatent de rire de l'autre côté de la salle, vous dites « tiens, il y a un truc sympa qui se passe ». Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est pas très cool. Donc forcément, ça crée de la distraction. Donc ça, c'était difficile. J'ai très vite remarqué que les moments où je travaillais le mieux, c'était soit le matin avant que les gens arrivent, tous, soit le soir quand ils partaient tôt et que moi, je restais un peu plus tard pour faire mes tâches. En tout cas, celles qui demandaient le plus de concentration possible.
Comme Karine, vous avez peut-être du mal à vous concentrer profondément, même lorsque votre tâche de travail le nécessite. Dans cet épisode, on se demande comment faire pour assurer des conditions de concentration propices au deep work, ou travail profond en français. Le deep work, c'est la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche exigeante sur le plan cognitif. La promesse de cette concentration en profondeur, plus d'efficacité et de productivité. Résultat, on gagne en temps, en énergie et même en confiance en soi. Toute la question, c'est de savoir comment l'atteindre. Je suis Léna Couffin, bienvenue dans Travail en cours. Aujourd'hui, Karine a trouvé sa formule pour réussir à se concentrer intensément. En tant qu'architecte d'intérieur, elle a, sans grande surprise, commencé par revoir son installation bureautique.
Depuis que je suis à mon compte, j'ai compris aussi que mon bureau physique, devait être installé d'une certaine manière pour m'aider, pour me faciliter physiquement à me mettre, on va dire, à la tâche ou à la concentration. Par exemple, en effet, quand j'étais en open space, à un moment, j'avais la porte dans le dos. J'avais l'impression que chaque fois que quelqu'un me rentrait dans le dos, c'était très désagréable. Donc, je fais en sorte qu'aujourd'hui, mon bureau soit bien installé, que j'ai pas trop de soleil directement, que j'ai pas de porte dans le dos, qu'il y ait une belle énergie dans la pièce. Même si ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais c'est de l'ordre du ressenti. Et du coup, donc, mon bureau est installé de manière à ce que je sois le mieux installé possible. Donc, les écrans qui vont bien, j'ai des écrans sur bras, j'ai un fauteuil adapté pour le mal de dos, parce qu'en fait, quand on reste beaucoup d'heures installé derrière un bureau, en fait, il y a des tensions au niveau cervical et dans le dos qui se font sentir. Donc, l'idée, c'est quand même de déjà physiquement avoir un lieu qui soit le plus agréable. Et en tout cas, quand je m'installe derrière mon poste de travail, je me dis « Ah oui, c'est cool, là, je suis bien installée, j'ai mes dossiers à portée de main et tout va bien. » Donc déjà, psychologiquement, je me mets dans la condition pour dire « Là, je vais bien travailler, en fait. » C'est plutôt lié à mon tempérament, parce qu'en fait, moi, je fais partie des gens ultra sensibles, donc je suis sensible à l'intérieur, à l'environnement dans lequel je travaille. En fait, j'ai remarqué que je suis plus à l'aise dans des pièces orientées est ou nord. J'avais un bureau au sud, et en fait, il y a trop de lumière et trop d'énergie pour moi, en fait. Et comme je suis assez sensible à mon environnement, ça m'empêche de me concentrer. J'ai besoin d'être physiquement, de me sentir le plus à l'aise possible. Si y a trop de lumière, s'il fait trop chaud, eh ben en fait, c'est pas possible. Donc, j'ai remarqué que dans les pièces orientées au nord et à l'est, j'étais le mieux possible. Et j'ai fait l'essai chez moi aussi. Je rêvais d'avoir un bureau couleur brique. Vraiment, j'adorais un peu comme des bureaux avec du bois, etc. Je trouvais ça très beau. Je me dis, ah, c'est super, je vais faire ça. Et en fait, je supporte pas le bureau parce que il est trop énergisant. Le rouge, c'est une couleur énergisant et il est orienté sud. Donc, en fait, pour moi, c'est trop fort, trop d'énergie, trop. Et alors que quand je me concentre, j'ai besoin plutôt de couleurs froides, apaisantes autour de moi pour m'aider justement à me recentrer et aller dans ma petite bulle en fait.
Alors les conditions pour réussir à rentrer dans le deep work, premièrement, il y a des conditions en fait qui sont assez basiques qu'on a tendance à oublier, peut-être justement parce qu'elles sont trop évidentes ou qu'on pense pas à l'impact de ça. C'est déjà, il faut bien dormir, bien manger et bien s'hydrater.
Anaïs Roux est psychologue, spécialisée en neurosciences. Le cerveau et son fonctionnement n'ont presque pas de secret pour elle.
C'est tout bête, mais en fait, votre cerveau ne peut pas être concentré sur une tâche intellectuelle complexe si ses besoins primaires ne sont pas remplis. Un peu comme nous, par exemple, à partir du moment où on a faim à midi, c'est pas là où on va faire du deep work. Donc c'est exactement ça. Si vous avez soif, si vous vous rendez pas compte que vous êtes en manque d'eau ou de sommeil, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et par exemple, il y a des moments de la journée où vous allez être capable de faire du deep work, et il y a d'autres moments où vous n'allez pas être capable de faire du deep work. Et ces moments-là ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Moi, par exemple, c'est le matin, de 8h30 à 11h, l'après-midi, vous me ferez jamais faire de deep work. Parce que mon organisme, mon état d'esprit n'est pas capable de se concentrer sur une tâche. Pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. D'autres, ce sera le soir. Je pense que c'est vraiment mon deuxième conseil, le deuxième prérequis pour avoir un deep work, c'est apprenez à connaître vos rythmes à vous et non pas les rythmes imposés à l'entreprise ou les rythmes de vos collègues, par exemple.
Une fois qu'on a compris à quel moment de la journée on est le plus efficace, un autre facteur entre en compte, les interruptions, que l'on subit ou non. Dans nos rythmes de travail actuels, pas facile de ne pas être déconcentré par nos notifications d'email ou de téléphone.
Et donc de là, forcément, le premier conseil aussi qui vient, c'est de mettre un cadre à sa consommation digitale. Donc dès que vous avez un deep work, vous enlevez par exemple les notifications d'email, vous fermez votre boîte mail, ou vous fermez si vous avez des messageries instantanées comme Slack, vous les fermez, ou WhatsApp, vous fermez tout ça, votre téléphone, vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac, vous le mettez en mode silencieux. Il faut que vous arriviez à... Comme je vous disais, le cerveau est sans cesse alerte face à ce qui se passe autour et aux sollicitations extérieures. Si vous ne faites pas l'effort conscient de réduire ces sollicitations extérieures, vous n'allez jamais pouvoir faire de deep work. Et les notifications, typiquement, elles appellent tellement, elles sollicitent tellement notre plaisir instantané que bien évidemment que si vous avez une notification, votre deep work, il est passé par la fenêtre. Vous êtes déjà sur votre notification parce que ça vous donne beaucoup plus de gratification que votre deep work.
Autre sollicitation qui provoque de la distraction, ses collègues. Surtout si vous avez le privilège, que dis-je, la joie, de travailler en open space.
Le deep work et l'open space, c'est pas les meilleurs amis du monde. Et je pense que c'est important pour vous, si vous avez besoin de ces moments deep work, de le faire savoir, en fait. Je pense que pour faire du deep work, la communication, elle est aussi clé. Il faut que les autres sachent que vous êtes en deep work. Le gardez pas pour vous, tout simplement. Donc, par exemple, mettez un petit panneau sur votre bureau qui dit ne pas déranger. Mettez-le dans votre agenda ouvert à tous pour que les gens voient « Ah non, là, il est en deep work, donc je vais pas lui envoyer un message ou un email. » Ou même sur votre nom sur Slack ou Zoom ou je ne sais quoi, mettez-le sur votre nom. Comme ça, personne ne vient vous déranger.
Karine a réussi à fuir l'open space. Elle travaille maintenant la majeure partie du temps depuis chez elle. Mais même là, il y a du monde pour l'interrompre.
Quand un membre de ma famille, je vais dire mon mari, le pauvre, quand il rentre dans le bureau, alors que c'est pas prévu du tout avant que je mette mon petit panneau d'interdiction de rentrer, mais plus joliment dit que ça, je le vis comme une agression, puisque si je suis sur une tâche qui requiert beaucoup de concentration, notamment quand c'est hyper technique, lui, il me dérange, mais j'ai l'impression aussi que je ne suis pas respectée dans ce que je fais. Et comme moi, ça me sort de ma tâche, pour y retourner, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Donc, je suis à la fois en colère contre lui, à la fois en colère contre moi, parce que je me dis, zut, maintenant, il faut tout recommencer, il faut tout, je recalcule. Donc, dès que je suis interrompue, par exemple, quand je travaille à la maison par mon mari ou par mon fils ou par le chien, le cerveau, je sors de ma tâche et après, je mets 10 minutes pour y retourner. Et puis, si quelqu'un, par exemple, m'appelle, on ne m'appelle pas juste pour me dire « Salut Karine, tout va bien ?» On m'appelle pour me demander quelque chose. Sauf que moi, je suis obligée de couper ce que j'ai dans la tête et de tout éteindre pour allumer une autre radio, pour écouter, par exemple, si c'est un client qui m'explique qu'il a un problème. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, je me dis « Ah zut, il y a un problème !» Et mon cerveau, il est happé par autre chose, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus trop compliqué parce que du coup, ça y est, ce que j'étais en train de faire, c'est... J'en sors et il me refaut un certain temps pour y retourner, en fait. Donc, en fait, c'est apprendre aussi à couper et à s'isoler pour être sûr que ces tâches-là soient faites de manière le plus pertinente possible, en fait.
Pour réussir à s'isoler, même lorsqu'elle travaille depuis son appartement familial, Karine a trouvé sa technique.
À la maison, c'est un peu différent. Du coup, il y a un petit panneau à l'entrée du bureau qui est « Je suis super concentrée, retour sur terre à 18h ou à 20h », je l'indique par un post-it, en fait, pour indiquer à mon entourage familial que là, il n'est pas question de rentrer dans le bureau, en fait. Et même moi, psychologiquement, quand j'indique une horaire, quand je dis « Voilà, à 18h, je suis de nouveau sur terre et avec vous », C'est comme si j'avais conditionné mon cerveau pour dire, bah, 18h, je m'arrête, en fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais à peu près, on va dire. Et puis, vis-à-vis de mon entourage, ce qui est drôle, c'est que mon mari, avant de rentrer dans le bureau, avant, il rentrait n'importe comment. Et quelle que soit la tâche que je devais mener, il rentrait pour me parler d'un autre sujet, donc ce qui m'agaçait fortement. Et en plus, il était vexé parce que je ne répondais pas à ses attentes, donc ce qui m'agaçait aussi. Et puis maintenant, j'ai mis le panneau, tout le monde regarde le panneau, il regarde la montre, ils font « Ah, c'est bon, on peut rentrer dans le bureau ou pas ?» Et ça, c'est drôle, en fait.
Pour ne pas être dérangée à toute heure du jour et de la nuit, Karine a aussi appris à mettre des limites à ses clients.
Une fois que vous répondez au téléphone, c'est fini. Ça y est, c'est passé. Même quand ça sonne, c'est fini, c'est trop tard, en fait. Donc, du coup, c'est de faire en sorte que ça ne se présente pas. Donc, par exemple, j'ai arrêté les notifications WhatsApp. Donc, je ne sais pas. Si je n'ai pas l'action d'aller sur WhatsApp pour vérifier si j'ai un message, je ne sais pas que j'ai un message WhatsApp. Donc, ce qui me soulage beaucoup. Et après, du coup, je me suis aperçue aussi que rien n'est vital à la demi-heure. Donc, je sais que j'ai, allez, maximum 6 heures pour répondre à un message et qu'après, je leur propose aussi soit un rendez-vous téléphonique, enfin souvent un rendez-vous téléphonique, mais à des horaires qui lui conviennent et qui me conviennent. Donc, moi, je me mets en disponibilité à ce moment-là pour les clients ou pour répondre aux demandes. Et là, je sais que je suis pas en train de faire autre chose.
Dernière étape pour atteindre un état de concentration profonde, définir des plages horaires dédiées dans notre emploi du temps, tout en restant flexible.
J'essaye de me fixer pas au niveau de la semaine, de me dire à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait telle et telle tâche. Donc par exemple, je ne vais pas forcément dire lundi je fais ça, mardi matin je fais ça. Pourquoi ? Parce que par exemple, si lundi matin j'ai reçu une mauvaise nouvelle parce qu'il y a sur un chantier il y a un gros problème, ben, je peux vous dire que comme il y a un gros problème, je suis incapable derrière de me reconcentrer sur autre chose. Je ne m'impose pas au jour le jour un planning trop figé à cause de ça.
Le deep work, ça ne se force pas en fait. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire du deep work que ça va être du deep work. Vous ne pouvez pas vous dire, bon bah 13h aujourd'hui, c'est bon, je suis en deep work. Ça se trouve, vous aurez passé une très mauvaise nuit juste avant. Vous serez beaucoup trop pris dans une autre tâche, une autre activité peut-être, qui nécessite pas de deep work, mais qui vous prend un peu votre énergie, parce que c'est stressant. Ou alors, vous allez avoir eu un conflit avec un collègue à la pause déjeuner. Et là, le deep work à 13h, il est un peu loupé. Donc, je pense aussi que le deep work nécessite de la flexibilité. Si vous sentez que c'est pas le moment, bah allez faire un tour, ou faites d'autres tâches à la place, et mettez votre deep work un petit peu plus tard dans la journée.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ce qui est sûr, c'est que chacun de ces créneaux horaires doit avoir un objectif clair concernant ce qu'on doit accomplir. Le secret de Karine est de découper les grandes tâches en plusieurs sous-tâches.
Et puis maintenant, finalement, avec le nombre d'années, en fait, je m'aperçois que vaut mieux reséquencer son travail pour être ultra performant sur chaque étape, au lieu d'essayer de tout aborder en même temps et de se mettre trop d'objectifs en même temps, en fait. La cuisine, par exemple, quelqu'un me demande de refaire une cuisine. Mais la cuisine, bah, y a un évier, il y a une plaque de cuisson, il y a des placards, etc. Mais en fait, il y a des normes. Y a plein de normes, en fait, de hauteur, de profondeur. On ne met pas trop l'eau près de la plaque de cuisson. Enfin, il y a plein de choses. Mais à un moment, quand on veut tout faire en même temps, forcément, on en oublie. Et c'est pas possible. Soit ça demande qu'on revienne sur le travail après pour revérifier son boulot. Donc, de toute manière, on perd en efficacité. Donc, c'est trop compliqué. Et après, je vous parle que des aspects fonctionnels du travail, mais après, il y a un aspect esthétique. Mais donc, traiter tous les sujets en même temps, en fait, il y a, allez, je pense à 90% des cas, ben, moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire, je fais une cuisine et je dis, ah ben tiens, j'ai oublié, il n'y a pas la vaisselle. C'est un peu dommage, mais maintenant, il faut y trouver une place. Mais la vaisselle, qui dit de la vaisselle, il y a arrivé d'eau, etc. Donc, c'est assez compliqué. Donc, il faut tout refaire. Donc, en fait, le risque d'erreur et de mettre son travail à la poubelle est beaucoup plus important que si, en fait, à un moment, je séquençais bien mon travail en disant, là, j'aborde un aspect fonctionnel, je pose les choses techniques, et après, une fois que ça, c'est bien validé techniquement, que je rentre dans les cotes et je suis sûre que tout rentre dans l'espace imparti, ben là, je peux m'attaquer à un effet, on va dire, esthétique, quel matériau, quel choix de carrelage et tout, pour que ça soit un peu sympa, quoi. Mais faire les deux en même temps, le cerveau, en fait, il s'en mêle un peu les pinceaux. Et du coup, c'est pas du tout efficace, voilà. Ce que j'aime le plus, c'est avoir un objectif, avoir un livrable, quelque chose de concret à la fin de la tâche. C'est-à-dire que ce que j'aime pas, parce que je m'inscris plutôt dans une logique très opérationnelle, très concrète, ce que j'aime pas, c'est me dire que ma tâche va durer 3 jours. Non, je préfère me dire, tiens, là, pendant 2 heures, je finis le plan de l'existant de l'appartement, mais au bout des 2 heures, je l'ai fini. Alors après, ce qui se passe en vrai, c'est que quand je l'ai pas fini, ça dure. Mais ça dure jusqu'à ce que j'ai fini. Parce que pour moi, dans ma tête, il n'est pas question que je m'arrête, en vrai, tant que je n'ai pas fini ma tâche. Je fais ça pendant 1 heure ou 2 heures, mais je ne fais que ça. Mais à la fin, j'ai aussi la satisfaction de dire « Ah bah ok, c'est cool, là t'as un vrai truc, et là je suis super contente de moi. » Donc après, je peux passer plus facilement à l'autre tâche.
Mieux vaut se concentrer très fortement sur une tâche et ne surtout pas essayer d'affronter plusieurs problèmes de front.
Il y a une attitude qu'on a qui est très délétère, par exemple, sur la concentration et qu'il faut absolument oublier rapidement, c'est le multitâche. En fait, vous allez passer d'une tâche A à une tâche B et vous n'allez jamais être réellement concentré sur l'un et l'autre. Vous n'allez jamais pouvoir rentrer en deep work. Donc, le multitâche est vraiment l'ennemi du deep work. En gros, ce multitâche, il a vraiment 2 coups. Premièrement, il a un coût qui va être énergétique. Il a un coût énergétique parce qu'en fait, votre cerveau, plus vous allez switcher entre des tâches, plus il va devoir faire preuve d'adaptation. Et cette adaptation, ça va demander de l'énergie au cerveau. Et cette énergie, bah, on en aurait bien eu besoin pour du deep work. Donc si vous mettez toute votre énergie dans du switching, comme on l'appelle, vous n'en aurez pas pour du deep work. Et aussi, le multitâche, le fait de switcher, augmente significativement le stress. Il y a une étude qui a été faite assez récemment où, en fait, ils ont fait faire des tâches de bureau assez typiques à des personnes qui étaient de répondre à des emails, et ces personnes étaient sans cesse interrompues. Donc, ils devaient passer d'une tâche A à la tâche B que l'interruption nécessitait. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les personnes qui étaient interrompues sur des sujets très différents de ce qu'ils étaient en train de faire présentaient des niveaux de stress plus élevés, des niveaux de frustration beaucoup plus élevés. Ils avaient l'impression d'être plus... d'être soumis à plus de pression temporelle et d'avoir plus de charge de travail. Aussi, il y avait et ça rejoint un petit peu la dépense énergétique, c'est que les personnes qui savaient qu'elles n'allaient pas être interrompues pendant leur deep work travaillaient beaucoup plus lentement. À partir du moment où on se lance dans un deep work, mais qu'on sait qu'on va être déconcentré, qu'on a conscience du fait que potentiellement je vais être déconcentré, le cerveau va se mettre à travailler beaucoup plus rapidement et donc à être beaucoup plus stressé et à dépenser encore plus d'énergie. Et là, votre deep work, vous êtes sûr qu'il ne fonctionnera pas. Le deep work aussi, il nécessite en effet de ne pas avoir de tâches en suspens dans sa tête. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir, quand vous commencez votre deep work, d'avoir une feuille en fait et un papier à côté de vous et de vous dire, dès que vous avez une pensée qui vous distrait et qui traverse votre esprit, plutôt que de la conserver en tête, vous l'écrivez. Comme ça, vous n'y reviendrez pas et vous allez beaucoup plus pouvoir vous concentrer sur la tâche.
Quand Karine parvient à mettre toutes les bonnes conditions en place pour être en deep work, voilà le résultat.
Je suis tellement absorbée par la tâche que c'est comme si j'étais dans l'appartement du client. Là, je suis en me disant, tiens, il y a ça, j'ai pas vu cet aspect-là, je regarde ça. C'est comme si je rentrais dans une bulle un peu intemporelle et qui fait que ben là, le temps, je le vois plus passer, en fait. Alors, à un moment, je suis dans la cuisine. En fait, tout d'un coup, bon, ça peut paraître très bête, mais je dis, ah tiens, ça, c'est mon placard pour ranger mes couverts. Là, je mettrai un placard à épices, je l'organise. Et en fait, je le fais un peu comme si j'étais dans la pièce en train de le faire, en fait. C'est-à-dire, je me dis, oui, là, ça me paraît cohérent, c'est bien, mais c'est comme si je le visualisais aussi en même temps. Enfin, c'est un espèce de dialogue interne qui se passe et qui fait, OK, ça marche pas. Je suis habitée par le projet, en fait. Je suis complètement immergée dans le projet, en fait. Et c'est vrai que tant que j'ai pas réussi jusqu'au bout, bah en fait, je lâche rien, en fait. Je vais pas dire, tiens, j'ai pas trouvé de solution, alors à moins que ça soit une grosse galère, mais non, non, je vais arriver jusqu'au bout, quoi, jusqu'à ce que ça soit satisfaisant, en fait. Il y a une espèce de jeu qui se met en place dans le cerveau et une espèce de visualisation aussi, ouais, je pense. Quand on dit deep work, il y a aussi l'effet de dive, de plonger, en fait. Mais une fois qu'on a plongé dedans, parce que le plus dur, finalement, c'est de plonger dedans. Mais une fois que tout est réuni et que j'ai aucune excuse pour pas le faire et que je suis dans mon état, en tout cas physiologique, le plus favorable à ça, ben une fois que vous êtes descendu et je suis descendu, après j'oublie complètement.
Karine compare le deep work, c'est-à-dire le travail en concentration profonde, à une sensation de plongeon. Tout autour d'elle disparaît. Et ce n'est pas si anodin. Dans le cerveau, lors d'une concentration profonde, certains types d'ondes cérébrales dédiées aux activités intenses s'activent. Tout un système cognitif se met en place.
Le fait d'être immergé dans quelque chose, c'est aussi un choix que votre cerveau fait d'ignorer les informations qui vous entourent. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, on est tout le temps stimulé par des informations sonores, visuelles, au niveau des odeurs, du toucher, etc. Ça, on va pas en être conscient tout le temps. Ça va être traité par le cerveau de façon inconsciente. Et c'est une étude qui a été faite d'ailleurs par un chercheur français qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud pour l'INSERM, il y a de ça pas très longtemps de ça d'ailleurs, qui a mis en avant que notre cerveau décide en un quart de seconde de savoir si cet élément qui nous entoure mérite notre attention ou pas. Donc quand on va être en immersion complète, quand on va avoir l'impression d'être coupé du monde, c'est qu'en fait, volontairement, notre cerveau se met en mode « j'ignore complètement ce qui se passe autour de moi ». Et je pars du principe que toutes les stimulations qui m'entourent ne sont pas suffisamment importantes pour être diverties de la tâche que je fais actuellement.
Est-ce qu'on en a tous le potentiel ?
Alors oui, de façon globale, on est tous capables de faire du deep work. À partir du moment où on n'a pas de troubles particuliers de l'attention ou de la concentration, on devrait tous être capables de se concentrer sur une tâche. Il faut juste en fait avoir cette connaissance de soi, de pourquoi est-ce que cette fois-ci j'ai réussi à faire du deep work et pourquoi cette fois-ci j'ai pas réussi à faire du deep work, et travailler sur ces éléments-là. Dans la communauté scientifique actuelle, c'est un peu un sujet où on a différentes positions. On n'est pas convaincu que l'attention et la concentration soient des compétences qui se développent. C'est une compétence qu'on a, et ensuite on peut juste la favoriser avec des éléments de l'environnement.
Pour favoriser la concentration, on peut aussi opter pour une solution externe. Par exemple, pour une vidéo YouTube de musique Lofi. Vous connaissez ? Le Lofi, c'est au départ un genre musical devenu un vrai courant sur les réseaux sociaux. On l'associe aujourd'hui à la concentration, la sérénité et à la productivité. La musique est instrumentale, avec des sonorités douces comme des crépitements de feux de cheminée ou des sons de la nature. Pour beaucoup d'adeptes, cette technique de concentration fonctionne presque instantanément. On lance une vidéo avec comme description « Beats to study », qu'on traduit « rythme pour étudier », et c'est comme si le chaos dans le cerveau se taisait, pour se recentrer sur notre travail. Mais comment ça marche ? J'ai voulu poser la question à la spécialiste en neurosciences.
La concentration intense correspond à un certain type d'onde cérébrale dans le cerveau. Et il y a des études qui se sont penchées sur est-ce que si je fais écouter une musique qui correspond au rythme de ces ondes cérébrales, est-ce que ça favoriserait la concentration ? La réponse semble tendre vers le oui. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites sur ce sujet, notamment un collectif qui s'appelle Brain FM qui travaille justement sur ces ondes spéciales concentration et qui ont pu voir en effet que les personnes qui s'adonnaient à une tâche, quand elles avaient une musique qui correspondait aux ondes bêta, ces personnes faisaient beaucoup moins d'erreurs et témoignaient être beaucoup plus impliquées et absorbées absorbée par la tâche à la fin de l'expérience, par rapport aux personnes qui n'avaient pas de musique et de rythme musical correspondant aux ondes bêta. Mais c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas, que c'est très difficile de se concentrer sur des musiques qui ont des paroles. Parce que écouter une musique avec des paroles, ça mobilise notre réseau aussi du langage. C'est quelque chose de cognitivement un peu plus prenant qu'une simple musique où il n'y a que des sons.
Lorsqu'on parvient à plonger dans son travail, la sensation peut aussi se mêler à une joie intense, une satisfaction d'avoir terminé nos tâches les plus lourdes. Il y a un terme psychologique qui lui correspond, le flow.
C'est une notion qui a été créée par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un psychologue, et qui définit en fait un état dans lequel on est quand on va être entièrement immergé dans un travail, qu'on ne va pas voir le temps passer, qu'on va avoir cette fierté de ce qu'on est en train de fournir, et qu'on va être immergé dans cette joie du travail et de l'activité.
Le flow, on peut le ressentir dans tous les pans de notre vie. Quand on fait des activités artistiques ou manuelles, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut se retrouver quand on est en état de deep work.
Le flow ne nécessite pas d'avoir une tâche cognitivement, intellectuellement exigeante, à la différence du deep work. C'est pour ça que les deux sont finalement très différents. On peut être dans un état de flow pendant un deep work, mais le deep work ne nécessite pas forcément un état de flow. Mais on peut en effet le retrouver si cette tâche cognitivement très stimulante et demandante finalement nous génère beaucoup d'émotions positives, que pour nous c'est un énorme élan de fierté. Alors oui, on peut avoir du flow en étant en deep work.
Et le flow en deep work, j'imagine qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Mais quand j'imagine une bulle de deep work, ça me donne un peu l'image d'une personne qui travaille avec un casque sur les oreilles pour se couper du monde dans son coin. Du coup, je me suis demandé, le deep work, on l'atteint forcément individuellement, dans un bocal hermétique à tous les bruits et distractions? Ou est-ce possible de le pratiquer en groupe? Roxane est artiste photographe. Pendant ses shootings, qu'elle préfère en comité réduit, elle dit vivre une concentration groupée.
Je pense que le truc le plus important dans mes shootings, c'est vraiment de créer une bulle de création et vraiment d'avoir un dialogue avec le modèle avec qui je travaille, qui est un dialogue pas forcément avec des mots, mais vraiment avec le fait de s'imprégner de la musique, de s'imprégner de l'univers, de communiquer ensemble, ou même juste, en fait, je suis presque en miroir à bouger la tête ou le bras et ils comprennent direct là où je veux aller. Ce qui est chouette, c'est que du coup, on a de moins en moins besoin de parler. Et moi, parler, c'est hyper compliqué pour moi. Je préfère quand c'est imagé. Du coup, en fait, limite, quand on est vraiment dans un état de concentration poussée, ça va être... Ah oui, et puis tout le monde s'agite comme dans une ruche parce que la mèche, elle est tombée un petit peu comme ça. Et puis en fait, on voulait un truc moins strict. Et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et ça qui est bien.
L'élément clé qui lie Roxane à son équipe, c'est la musique.
Généralement, j'ai pas trop de musique, soit une ou vraiment 4-5. Parce que j'essaye que ça soit le plus précis possible pour retranscrire l'ambiance de l'univers que j'ai envie de créer. Et ça permet un peu à chaque personne d'être sur la même onde et qu'on est tous... le même engrais pour faire la création le jour même. Et je pense que ça aide d'avoir cette musique en commun. Et donc du coup, il n'y a vraiment aucun bruit, parce que en fait, dans un shooting, on n'imagine pas, mais il y a les stylistes, les make-up, les assistants en plateau et tout. Et donc je demande ce qu'il n'y ait pas de bruit, personne qui parle entre eux ou quoi. Mais après, dès qu'on finit la fin du maquillage, on commence à rentrer dans les costumes, je commence à mettre la playlist. Parfois, c'est qu'une seule chanson que je mets en boucle pendant 2 heures de shooting. Les modèles, ils sont habitués. Et au début, ils me disent « Ah, mais c'est insupportable !» Et après, en fait, ils se disent « C'est bon, j'ai l'impression que je comprends vraiment le projet d'avoir la musique en boucle, en boucle, en boucle. » Ça permet vraiment d'avoir une intention. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une énergie commune, tous ensemble. C'est le plus important, je pense, pour être bien. C'est là qu'on voit qu'on est concentré, parce que du coup, on a tous la même énergie là-dessus.
On pense en effet que le flow de groupe existe, parce que ce flow de groupe, on pense que c'est non pas une agrégation de flows individuels, mais bien vraiment une autre entité différente. C'est peut-être que tout le monde est en flow individuel, mais il y a ce flow groupal qui est là et qui ne dépend pas de l'addition de ces flows individuels. Et qui serait en fait vraiment ce phénomène collectif qui serait lié à des objectifs, aux objectifs finaux du groupe qui se réunit ensemble, et qui seraient aussi liés à des éléments du groupe. Donc, quelles sont les compétences du groupe? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Comment sont les relations au sein du groupe? Et est-ce que les gens se connaissent? Est-ce qu'ils interagissent ensemble? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, etc. Malheureusement, je peux pas en dire beaucoup plus. Ce serait que des suppositions, parce que la recherche sur le flow de groupe est très réduite. Mais ça m'a fait penser à autre chose qui est aussi assez obscure, hein, dans la recherche, c'est la synchronisation des ondes cérébrales. L'état de concentration induit des ondes cérébrales particulières. Et en fait, il y a des travaux qui ont observé avec des outils tels un EEG, les ondes cérébrales de différentes personnes travaillant dans un groupe similaire, par exemple des élèves et des enseignants. Et ils se sont rendus compte, par exemple, dans une salle de classe, que lors de concentration extrême et sur ce que dit le professeur, les ondes cérébrales des élèves s'alignent avec les ondes cérébrales des professeurs. On a pu aussi remarquer ça dans d'autres études. Par exemple, quand on met des gens dans un exercice de cohérence cardiaque, on se rend compte que leur rythme cardiaque s'aligne. On peut appeler ça aussi la résonance entre êtres humains. Mais voilà, ça reste encore aussi un domaine de recherche très flou. Mais on a l'impression, en fait, qu'il y a une sorte de synchronisation d'ondes cérébrales qui est possible quand on fait une activité qui nous rassemble tous.
En dehors de ses shootings, Roxane reconnaît apprécier fortement la concentration solitaire pour laisser toute la place à sa créativité. Mais qu'on soit seul ou à plusieurs, quelques éléments reviennent toujours pour atteindre le deep work. Soigner son environnement physique, définir une plage horaire de concentration en nommant des objectifs précis et réalisables, et enfin, protéger sa bulle pour la rendre, le temps de ces quelques heures, hermétique au monde extérieur. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Léna Couffin, j'ai tourné et écrit cet épisode. Louis Jobard était au montage et à la réalisation. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. Louise Emerlet était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partie de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.